Bible dit.
Jésus dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour, elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle. Elle me dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci invita. Verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour, un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so. Soffrire un po', ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans elle.
Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je l'appelle.
Vivo per lei nel vortice.
Attraverso la mia voce si espande. Je ne vis que pour elle.
Sopra un palco contro un
altro.
Anche in un domani.
J'ai juste un flash, je sais pourquoi.
Ogni giorno una conquista. La protagonista sarà sempre. Per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
È la musique et la diselle, elle m'a donné la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas. J'existe pour
vivre elle. Vivre pour lei è unica.
Elle est toi et moi. Lo vivo per lei.
Io vivo.
treasure, too heavy to hold, too deep to fathom, too bright to behold. I wrestle with the angel, and the angel changed my name.
Every time I sin, so don't need my faith in the hands of my enemies.
Don't let me die. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me dry. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me die. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me
we'll be right back. tie my face. They call me a dogu cause I live up to my name. Abura, abura, gane. Tell me who you gonna call when you feel like you don't get nobody at all. I still play the blame game with the man in the mirror. Don't you leave me on my own now.
Don't let me die. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me dry. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me die. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Don't let me
pour les nuls.
La Bible est plus qu'un livre, c'est toute une collection. Entre la première page et la dernière, l'espace-temps est de plus de 1500 ans. Une fameuse fresque qui, de la Genèse à l'Apocalypse, raconte l'histoire de l'humanité avec un début, mais aussi une fin. 1500 ans, et pour raconter tout cela, pas moins de 40 auteurs différents, dont la plupart ne pouvaient pas se rencontrer. Aucun livre dans le monde ne connaît une telle rédaction. C'est donc vraiment un livre unique, et je ne parle pas ici de son contenu, mais simplement de sa formation. Une telle exclusivité, une telle rareté mérite toute notre attention. Si un livre a une telle histoire, c'est que son contenu ne peut qu'être important, pour ne pas dire très important.
La Bible pour les nuls vous a été présentée par Phare FM.
Phare FM, l'émotion partagée.
De peser sur nous comme un enfer.
Je vous regarde. ferais pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies? Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière, des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo.
Just kids and married in early 20s. Checked all the boxes, bought a house and settled down. Yeah, we planned it all. Didn't wanna lose control. High expectations for the life that we were living. Yeah, we were reaching for the stars and at the ceiling. Yeah, we lost control. And everything we used to know. Up the pieces,
I started counting all the things that kept me breathing, and I realized there's beauty on the edge of life.
Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des buts de la sexualité.
Dieu nous a créés hommes et femmes, et il a déclaré que sa création était belle. Ça inclut donc aussi la sexualité. Je voudrais vous lire pour ça deux passages, un qui est dans Genèse 1 et un dans Genèse 2. Vous les connaissez sans doute, mais on va les regarder maintenant avec à l'idée la pensée de la sexualité. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ». Donc là, à l'évidence, ça parle de l'acte sexuel. Et puis le deuxième passage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Cette nudité ne créait pas de honte, une nudité que l'on retrouve aussi dans le cadre de l'intimité sexuelle entre un homme et une femme, et il n'y a pas de honte, parce que Dieu a créé ces choses pures et sans tache, sans péché.
Avec la sexualité, Dieu poursuit des buts avec nous. Le premier, on l'a entendu, hein. Si je vous demande quel est l'objectif de la sexualité dans ce qu'on a entendu, la reproduction. Multipliez-vous, nous on a bien participé à cela, avec nos cinq fils. C'est un des objectifs de la sexualité, mais c'est pas le seul, loin de là. On entend aussi dans ces deux versets-là, être un, la fusion entre les corps, l'âme et l'esprit du mari et sa femme. C'est tellement vrai qu'au niveau physique, quand un jeune couple se marie et commence donc à devenir intime au niveau de leur sexualité, eh bien, avec les premières pénétrations du sexe du mari dans le corps de la femme, le système immunitaire de la femme descend, donc le niveau de défense est diminué pour qu'il y ait une phase de transition où le corps de la femme va s'habituer au corps de son mari. Le sexe de son mari, le sperme de son mari vont devenir un avec elle. Il faut que son corps accepte comme n'étant pas un corps étranger, en fait. Donc même Dieu a prévu en nous des mécanismes qui vont permettre à nos corps de devenir un.
Et dont le but est de faciliter après les grossesses. Et c'est vraiment le désir de Dieu que ça se passe bien.
On devient un au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. La sexualité poursuit ce but-là. Un autre objectif de la sexualité, c'est vraiment le don de soi. C'est je me donne à toi, je te donne de l'amour, on devient un. Il y a l'idée de donner du bonheur à l'autre.
Donner du plaisir à l'autre.
Du plaisir à l'autre.
C'est ça. La sexualité, vraiment, dans l'idée de Dieu, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes et notre plaisir personnel. On est centré sur le plaisir de l'autre et le bonheur de son conjoint.
Moi, j'aime beaucoup que vous utilisiez le mot plaisir parce que c'est un autre des objectifs de la sexualité. On le voit clairement dans la Bible. Dieu nous encourage au plaisir.
Alors, je vais vous lire un passage qui vient de la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 5, les versets 18 et 19, qui disent que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Je pense pas qu'il y ait un doute possible. Oui. C'est explicite. Réjouissez-vous l'un l'autre de la femme de ta jeunesse et de ses seins particulièrement. En tout cas, Dieu a voulu que les choses se passent comme ça.
Et une vraie attraction des hommes pour la poitrine féminine. Dieu a créé cela aussi, bien sûr, entre le mari et la femme. Les seins sont clairement définis ici comme une zone de plaisir. Mmh. C'est un autre des objectifs de la sexualité.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Playing,
beyond my imperfections, trying to cut through the noise. I stand a broken man who longs to be your voice.
Time flies, butterflies, so don't blink twice.
J'ai vu la terre, j'ai vu la vie, et deux enfants apporter l'espérance, apporter l'espérance. Dans le regard d'un vieil ami coulaient des larmes d'espérance, des larmes d'espérance. Une cathédrale sortir de terre, un oranger dans le désert. J'ai vu l'impossible.
Des milliers de rêves.
J'ai vu des hommes se relever, j'ai vu des mains apaiser la souffrance, apaiser la souffrance. Dans un village, l'éternité, dans le silence, l'amour en abondance, l'amour en abondance. Une favela dansée de joie, un ancien retrouvé la foi. J'ai vu l'impossible.
Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, tout simplement. Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, à pas de géant.
L'espérance ne déçoit pas.
Si mami toca en
falla, l'esperanza no defrauda.
Give your hands to serve.
Et ton cœur pour aimer.
Et ton cœur pour aimer.
Des milliers de rêves.
Tout autour de la terre, change le monde. Tout simplement. Des milliers de rêves. Pas de géant. Des milliers de rêves. Tout autour de la terre change le monde. Tout simplement. Des milliers de rêves. Tout autour de la terre change le monde. Pas de géant.
Passer du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges.
C'est ce qu'on nous a dit.
Mais est-ce qu'on a réussi?
On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende de la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser.
Si on avance ensemble,
il fallait qu'on se rassemble.
Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous.
On a tous pris des coups,
mais on tient debout.
Hey. On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord. Mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde de demain. À nous de changer le décor. Sans peur, on est bien plus fort, plus fort. On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit de naître dans un monde où certains ont faim et froid. Il faudra qu'on soit des milliers à ne jamais oublier que le chemin est long.
Avant de faire pour de bon,
on nous dira tellement de fois que l'on est fou d'y croire. Et si l'on n'y croit pas, dis-moi qui le fera. On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira
on le fait ensemble,
on sait comment faire.
Faut détruire les barrières.
Et qu'est-ce qu'on sera fiers?
Et on construira nous le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira.
On s'y retrouve avec Benjamin Peter Schmidt.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est heureux d'être avec vous sur cette émission. Vous connaissez le principe, on s'y retrouve. Et des fois, on s'y perd. On discute de plein de choses, mais ce soir, on va parler du thème de la sexualité dans le couple. Maintenant, je parle de la sexualité dans le cadre du couple chrétien, c'est-à-dire du mariage. Dans le cadre du mariage, on va avoir tout de suite Eric et Rachel Dufour qui vont venir avec nous. S'ils peuvent se téléporter dans cette télé. Bonjour à vous deux, Eric et Rachel. Bon, ben, je pense que vous arrivez à définir qui est Eric et qui est Rachel. On est vraiment ravis de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être en deux mots vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi on vous a invité dans cette émission?
Oui, alors ça fait 30 ans qu'on est mariés, parents de 5 enfants, dont 3 sont mariés aussi. 30 ans de ministère, que l'on a commencé en Alsace d'ailleurs, avec joie. Et puis on a été pasteur d'église. Et en fait, on est devenu au cours de ce périple thérapeute. Et on est spécialisé dans l'aide apportée à toute personne qui est dans un ministère, que ce soit célibataire ou en couple.
Une fois qu'on est marié, eh bien nous, on fait face à des gens qui ont des difficultés dans leur sexualité, dans le cadre du couple. Donc voilà, on s'est spécialisé un petit peu là-dedans.
Alors, j'aimerais vous poser, pourquoi je voulais aborder ce sujet? Parce qu'il y a tellement de couples, en fait, qui sont en souffrance sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet extrêmement important. Alors, ma question, elle est simple, c'est, mais quelles sont les choses que vous retrouvez le plus dans vos entretiens si, effectivement, il y a des difficultés? Vous, qu'est-ce que vous retrouvez le plus comme difficulté?
Souvent, en fait, la société n'est plus immorale, mais amorale. C'est-à-dire que les gens qui grandissent dans cette société ne savent pas où est le bien du mal. Et en fait, on vit la sexualité quand on n'est pas chrétien. On la vit, et même parfois, malheureusement, quand on est chrétien aussi, on la vit en dehors du cadre divin.
Donc, on a le sexe en dehors du mariage, tout ce qui est pornographie qui va mentir sur ce qui est vraiment la sexualité. Et on a aussi le puritanisme qui disait il faut pas y toucher parce que ce que je disais, la loi morale, c'est mal. Donc on voit des situations, des sexualités qui sont tournées off. Avant le mariage, moi je me tiens. Et puis on bride ça à fond et ça se débride jamais en fait.
Est-ce que ça c'est quelque chose alors peut-être je vais peut-être plus m'adresser papa en tant que pasteur, parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur on nous confie beaucoup de choses. Il y a des sujets comme ça qu'on retrouve. Est-ce que toi c'est quelque chose, tu te retrouves dans ce que Eric, Rachel disent aussi? Pas tu te retrouves non, on va y vivre. Là, les sous-entendus, les
misinterprétations,
ça va être vraiment, vraiment rapide et prompte. Mais ma question, c'est est-ce que, voilà, toi, en tant que pasteur, vis-à-vis de ce qu'il partage là, qu'est-ce que toi, tu dis?
Bah, ce sont les schémas qu'on retrouve en règle générale, avec également, de plus en plus, à mon sens, de perversion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend des choses qu'on ne pensait même pas possibles. Il y a jusqu'au stade où ça commence à faire peur. C'est-à-dire que on n'est même plus dans une, on parle même plus de sexualité, j'allais dire dans le cadre normal entre un homme et une femme, mais on voit des personnes pour aller plus loin dans l'expérience, parce que c'est toujours la même chose. Il y a un moment donné où on arrive, c'est comme la drogue. Arriver à ce stade-là, ça suffit plus. Alors on va plus loin, et puis on voit des gens qui tombent même dans la criminalité.
Ah
et
oui,
moi j'ai été Et nous sommes confrontés à cela.
Mais est-ce que, là, je vais prendre, par exemple, allez, un couple qui aime Dieu, mais qui vivent des difficultés liées à ça, qui souvent entraînent sur d'autres difficultés aussi, ou qui sont liées à d'autres difficultés que juste d'ordre sexuel. Mais tu vois, là, Éric Rachel parlait du puritanisme. Je trouve que c'est une notion assez intéressante à discuter. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ah,
bien, nous, on était... nos racines... sont liés à un mouvement très puritain quand même, et où la sexualité était réservée uniquement au fait de faire des enfants.
Ce qui peut expliquer du coup les difficultés de la sexualité dans le cadre d'un couple avoir des relations ensemble.
Oui, puis peut aussi expliquer les chutes chez l'homme ou chez la femme. Enfin bref, tous les débordements possibles. Et puis ce que je rencontre, alors c'est comme vous l'avez dit, je rencontre quand même aussi des plus souvent des femmes, pas toujours. En règle générale, ce sont des femmes. On parle beaucoup de violence aujourd'hui,
ouais.
Mais de la violence dans la sexualité.
Ouais.
Et une violence qui est vraiment liée à la pornographie. La pornographie engendre de la violence, et tout d'un coup, l'autre n'est même plus le vis-à-vis, il n'est plus qu'un objet.
Alors justement, Éric et Rachel, ce n'était pas la question que je m'étais notée juste après. Celle avec le verset sur 1 Corinthiens, j'aimerais vraiment qu'on l'aborde, mais on va enchaîner sur la question de la pornographie qui était celle, justement la suivante, puisque chez les jeunes, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui, c'est plus juste chez les jeunes. Maintenant, dans le cadre du couple, je suppose que forcément vous le retrouvez vous aussi. J'ai envie de dire, allez, ne partons pas juste d'un constat. On est conscient que ça arrive. Maintenant, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui est emprisonné dedans et qui en souffre dans le cadre du mariage aussi? Quel conseil pourriez-vous donner?
Oui, alors déjà, il faut, comme tu l'as dit, hein, c'est pas simplement. Évidemment, c'est un problème de jeunes dans la mesure où l'accessibilité à la pornographie est devenue gigantesque. Mais j'ai 55 ans, j'ai été exposé à la pornographie quand j'en avais 11 dans un contexte non chrétien. Et malheureusement, ça existe depuis toujours quasiment. Hein. Mmh. Et par contre, quand on a été prisonnier de cela étant très jeune. Plus jeune on y a été exposé, plus l'ancrage de la pornographie sur notre système de récompense-réconfort va être lourd. Quelqu'un qui a été exposé après ses 20 ans pourra s'en débarrasser plus facilement. Quelqu'un qui est exposé depuis très longtemps, il va y avoir toutes sortes de constructions émotionnelles qui sont faites depuis des années, il va être difficile de s'en séparer. Donc la réponse, ne bataillez pas seul. Entourez-vous. Et moi j'encourage les églises et votre église particulièrement à créer des groupes de parole d'hommes. Où on va cesser de se mentir, parce que malheureusement, la pornographie, elle expose la quasi-totalité des jeunes hommes aujourd'hui dans le monde et des jeunes femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont quasiment autant exposées et presque autant consommatrices de pornographie que les hommes.
Ouais.
Ce qui, normalement, la libido de l'homme passant par ses yeux, c'était lui la victime numéro un. Mais aujourd'hui, comme disait Samuel, il y a une telle chute morale du monde entier qu'en fait, les femmes aussi sont addictes à la pornographie. Donc, première chose, arriver à en parler. Et que les hommes qui en parlent prennent un risque avec leur épouse, elle a le droit de savoir. Et mesdames, je vais te laisser la parole. En fait, c'est quelque chose qui est très blessant, qui peut être extrêmement dommageable, mais il faut comprendre qu'en fait, souvent le combat n'est pas à cause de vous, madame, mais c'est quelque chose de plus profond qui est complètement indépendant de vous.
Ça, c'est très douloureux pour l'épouse, hein, quand elle apprend ou elle découvre, selon la façon avec laquelle elle aura découvert. Il faut se donner un petit sas pour avoir le temps de digérer, d'être en colère, etc., puis de pardonner. Je leur dis tout le temps, tu as le droit d'avoir envie de lui arracher les yeux, mais ne le fais pas, parce que le combat, il est à l'extérieur. Ça, c'est une clé. Le combat, il est à l'extérieur. Et c'est vrai, ça peut devenir une addiction, ça devient très vite une addiction, surtout maintenant avec les méthodes modernes, les 3D, etc. Donc, ça se traite comme une addiction, en fait. Il va falloir décrocher, faire du off. On coupe la source qui nourrit, donc téléphone portable, internet, on coupe, on met off, mais on met du on aussi, on va remplacer par quelque chose qui va venir répondre à ses besoins de récompense et de réconfort. Il y a tout un protocole à mettre en place, ça se traite comme une addiction et il faut reconstruire la confiance dans le couple, réapprendre une sexualité, parce que c'est vrai ce que Samuel disait, le mensonge de la pornographie, c'est de faire croire que quand elle dit non, elle dit oui, etc. Et on pourra enchaîner sur le verset après. Ben non, c'est pas du tout comme ça. Vraiment, c'est une moquerie, ce que le diable fait souvent. La pornographie, c'est une moquerie de la sexualité. Mmh. C'est du sexe.
La meilleure sexualité, en fait, elle se passe entre deux personnes qui sont les seuls partenaires l'un avec l'autre. Donc, l'épanouissement de la sexualité ne se vit, en fait, que dans la sécurité d'une alliance entre un homme et une femme qui n'ont pas de partenaires multiples. Donc, ce qu'on nous vend de « il faut découvrir avec plein de personnes avant de savoir comment on sera heureux sexuellement », c'est un mensonge abominable. C'est l'inverse de ce que la sexualité est censée donner.
Quoi. C'est une course au shot hormonal et qui ne suffit pas, exactement comme une addiction.
C'est ça.
Le premier shot suffit, on dit « oh, extraordinaire », puis après ça suffit plus, il en faut un plus fort, et donc plus violent.
C'est ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec, j'entends totalement votre conseil, mais avec cette approche-là, vous avez par exemple, allez, prenons l'exemple d'un homme ou d'un des deux qui a un problème lié à la pornographie, qui est dans le cadre marié, qui est même chrétien, qui est dans une addiction, mais, et que l'autre, ben voilà, vous parliez de « faut mettre off les canaux et mettre on de nouveaux canaux de réconfort, récompense, etc., que l'autre se sente comme juste le médicament. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas juste c'est pour faire cet échange, mais juste c'est le médicament pour éviter qu'il retombe. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut venir aussi.
C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Mmh. Tout le temps de réapprendre le off, c'est pas « bon, aujourd'hui, tu m'as avoué qu'il y avait un problème de pornographie, t'arrêtes de regarder la pornographie et on se déchaîne dans la chambre à coucher ». Non, pas du tout. Il y a tout un chemin de guérison. Il va falloir que le conjoint guérisse aussi, hein, parce qu'il y a un vrai chemin du pardon qui va devoir se faire avant qu'il puisse reconstruire une sexualité. C'est comme les addictions à la nourriture. On peut pas vivre sans nourriture. Dans un couple marié, on ne peut pas vivre sans sexualité active si on veut être protégé spirituellement, etc. C'est la même chose. Mmh. C'est toujours très délicat, ces addictions-là, puisqu'elles sont addictes. Elles nous lient à un produit besoin dont on a vraiment besoin.
Ouais.
Maintenant, on passe à autre chose. Non, ça prend du temps. Il va falloir de la guérison des deux côtés avant de réinstaller une sexualité qui sera saine.
C'est pour ça qu'on encourage vraiment à rechercher de l'aide et qu'il puisse y avoir des groupes de parole, parce que pour se battre efficacement et être victorieux ou victorieuse contre cela, c'est mieux si l'on est avec d'autres personnes. Pas pour se dire « oh, c'est pas grave, ça m'est arrivé aussi hier, c'est pas grave, on va y arriver ». Non, avoir vraiment un protocole de combat contre cela, comme un petit peu les groupes de parole des alcooliques anonymes. Hein. C'est vraiment ça l'idée, et qu'on cesse d'en faire un tabou pour pouvoir mettre ce problème dans la lumière, combattre ensemble et voir des victoires. Et quand je vois quelqu'un être débarrassé de ça et que ça tient, eh bien en fait, ça m'encourage à croire pour moi-même que je peux aussi avoir cette victoire.
Le dragon de la pornographie, quand on met la lumière sur lui, devient un lézard. Et puis après, il peut disparaître et sortir de la vie.
En plus de ça, vous êtes poète, mais c'est magnifique. Alors on va enchaîner justement avec ce verset qui revient souvent sur ce sujet-là. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5. Papa. Non, je vais te le lire alors.
Que l'homme.
Alors, la femme n'a pas autorité sur son. C'est ce que tu voulais dire ? Ouais. Ouais, c'est facile, arrête. Non, il a dit deux mots.
Tu vois, oui, je voulais dire, bien sûr, c'est comme les bons. Ah, j'avais
la réponse. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ma question, c'est que signifie ce verset ? Et est-ce que, des fois, certains ne l'utilisent pas pour fortement influencer un acte et presque comme un outil de, je dirais, pour le coup, de manipulation, quoi. Comment on peut le comprendre sainement, ce verset ?
Alors, c'est sûr qu'il va s'appliquer dans le cadre d'un couple chrétien qui s'entend et qui est harmonieux. En fait, il nous rappelle que je suis dans le don de moi vers l'autre et que dans la relation sexuelle, l'objectif, c'est pas que moi j'ai du plaisir. Ma responsabilité, c'est d'en donner à à mon conjoint. Et d'ailleurs, c'est aux hommes de prendre soin d'abord du plaisir de leur femme. Si on relit le texte de Paul, on voit bien que c'est à l'homme d'abord de commencer ce processus. Puis la femme va ensuite prendre soin de son mari. C'est dans le sens du don, et du don de soi vers l'autre. On prend soin de l'autre pour donner du plaisir à l'autre et à lui apporter réconfort, récompense.
La deuxième partie souligne la protection nécessaire au niveau spirituel, on en a déjà parlé. Et attention, il y a un point très important ici aussi. Le viol entre époux est condamné par la loi et par Dieu aussi. Hein. Mmh. On n'est pas dans jeu de force grâce à coup de verset. Ça, c'est un. Je voudrais pas être devant Dieu le jour où ceux qui auront fait ça devront rendre compte de ça. Tordre un verset de la Bible pour forcer l'autre. On n'est pas dans jeu force l'autre. On est dans je choisis le don. C'est différent. Si je choisis de faire ce cadeau et de développer notre sexualité, etc., et d'apprendre ensemble et d'être à l'écoute de l'autre, bien, on est dans un cercle vertueux.
Retrouvez cette émission en intégralité sur pharefm.com/on-s'y-retrouve.
From the drive.